Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Une émission proposée par la revue Les Refusés.
Bonjour.
Et bonjour Olivier.
John et moi-même sommes quelque peu esseulés aujourd'hui.
Oui, esseulés, en effet. Nous sommes tous les deux comme deux âmes en peine.
De larrons en foire aussi. Oui. Evelyne n'est pas là.
Oh.
Et la présentation de cette nouvelle émission sera uniquement masculine.
Oh, uniquement masculine, mais comment dire, les filles de MeToo, Olivier.
Chut.
Oh, pas de nana, pas de gonzesse, pas d'éléments féminins dans cette émission. Non, ça va pas. Bon, oh. Bon, et puis, après tout, hein, on va faire avec. Hein. Alors du coup, si j'ai bien compris, Olivier, ce sera donc le nom de l'émission. Quels sont les nouveaux ?
Non, John, pas du tout.
Et comment ça, non ?
Bah, John, même si nous sommes entre garçons, l'émission se nomme toujours « Quelles sont les nouvelles ?»
Ah oui, quelles sont les nouvelles, oui. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi, ah ouais, j'ai la tête. Bon, voici donc, alors, cette émission, « Quelles sont les nouvelles ?»
Une émission proposée par la revue des...
Les Refusés.
RCN, quelles sont les nouvelles ?
Une émission proposée par la revue Les Refusés.
À ce propos, la première nouvelle que l'on va lire tous deux maintenant, c'est une nouvelle tirée du dernier numéro, 24 de la revue. Alors, elle est écrite par Valérie Villemain. Olivier, tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur cette jolie Valérie, là, toute bouclée que j'ai aperçue au livre sur la place de Nancy.
On l'a rencontrée lors du festival des 12 000 signes et invitée sur notre stand, lors du livre sur la place, donc, pour dédicacer ses recueils. Le premier s'appelait « À la lumière des phares » et le second « Des vies qui déraillent » aux éditions Chemin Faisant. Elle vit entre la Bretagne et Nancy et a été déclarée présidente du fan club des 12 000 signes car elle prend même des vacances pour venir sur ce festival.
Ça, c'est du dévouement. Hein.
Alors, ben, c'est même de la passion.
Très bien. Alors, on va donc lire son texte qui s'intitule « L'autre ». Le silence règne dans l'aile nord. Chose assez rare ici, sans doute le calme avant la tempête. Un homme en salle d'attente, la trentaine, patiente, avant d'être reçu en entretien par le chef de service. Ah, il espère que cette fois-ci, on l'écoutera. Michel, puisque c'est son prénom, sait déjà ce qu'il va dire. Tout est noté dans son carnet, alors il regarde par la fenêtre les flocons qui tombent au sol. Lui, il aime marcher en forêt, quand on entend comme un hérisson la neige gelée qui craque sous les pas. Personne autour, le blanc partout, la nature, les arbres. Ouais, ça vide la tête. Les jardiniers qui travaillent ici, ils les envient. Un type s'assoit face à lui en répétant qu'il veut l'entendre, qu'il a rendez-vous avec le directeur. Michel veut fuir son regard, ça lui met les nerfs. Il préfère se lever et se tenir à distance. Après, s'il le faut, aller frapper à la porte. Il ouvre le carnet tout écorné. On déchiffre quelques fragments. « Vous êtes un vrai poète », lui a-t-on déjà dit. À l'école, pourtant, on le prenait plutôt pour un branleur. À la lecture des premiers mots, le bouton s'enclenche. Des images, des voix surgissent. Puis toute l'histoire, son histoire.
La vie commence mal. Quand votre mère met au monde, un 1er avril, son unique enfant, un accident, et que votre père aurait préféré que cela reste un canular. Il boit et vous frappe pendant des années. Les voisins le dénoncent et vous finissez en famille d'accueil. Vous n'avez que 5 ans. Lui, vous ne le reverrez jamais. Elle n'y est pour rien, sauf peut-être qu'elle a mal choisi son bonhomme. Alors vous continuez à la voir, mais seulement 1 heure par mois et en lieu neutre. On ne sait jamais ce qui pourrait se passer, disent les services sociaux. De toute façon, elle ne demande pas à vous voir plus. Vous pleurez à chacun de ses départs. Un jour, elle quitte cette ordure et refait sa vie avec un autre qui lui fait d'autres gamins et qui lui prenne tout son temps. Elle oublie vos rendez-vous, votre anniversaire et même Noël. Après, Vous ne faites plus rien à l'école et vous commencez les conneries. Vous piquez des trucs, vous taguez les murs du collège, vous menacez de faire la peau aux petits cons pourris, gâtés, qui vous fixent sans arrêt et se vantent de tous les cadeaux qu'on lui a faits. On vous déplace de collège en collège, de famille d'accueil en famille d'accueil. Ça n'arrange rien, ça augmente même plutôt le malheur et les bêtises avec. À vos 13 ans, le juge des enfants, qui ne veut pas entendre parler de vous, décide de vous mettre un éducateur de la PJJ aux fesses. Vous, vous n'en voulez pas, mais finalement, ce type vous aide à vous remettre sur les rails. À 17 ans, vous décrochez votre CAP menuiserie et un premier boulot.
Vous rencontrez ensuite une fille gentille et plutôt belle. Vous décidez de vous ranger des voitures. Ah, fini les conneries. Vous emménagez avec votre copine, c'est bien au début. Vous partez en vacances ensemble, vous baisez sans arrêt. Eh. Un jour, elle vous dit qu'elle veut se marier. Vous ne voulez pas, mais comme vous avez peur de la perdre, alors vous acceptez de passer devant le maire. Et là, les emmerdes sérieuses démarrent. Joe, votre collègue, ce bâtard que vous considériez comme votre meilleur pote, vous dit un jour à la cafétéria. « Dis donc, gros vénard, c'est bien le resto ? T'aurais pu nous la présenter, hein ? Des sacrés nichons, dis donc, mais t'inquiète, hein, je dirai rien à Jessica. » Vous comprenez pas. Et il ajoute, « Oh, fais pas ton timide, hein. Tu étais avec elle l'autre jour avec cette fille, quoi. Vous croyez d'abord qu'il se fout de votre gueule, mais il insiste, il vous cherche. Vous n'auriez jamais pensé ça de lui. » Après, c'est au tour de Sam, votre cousin. Vous laissez un putain de message. Et vous aurez vu hier soir en ville et elle n'a pas apprécié que vous le snobiez. Vous le rappelez pour lui dire que c'est une erreur. Vous étiez chez vous, mais il veut rien savoir. Comme votre meuf était chez sa sœur, vous n'avez aucun alibi et voilà. 2 ans après, il vous fait toujours la gueule. Mais c'est de pire en pire. On n'arrête pas de vous dire qu'on vous a vu ici ou là, que vous avez fait ci ou cela. Au début, vous pensez qu'on vous confond avec un autre. Puis à force, vous finissez par douter des autres. Ils sont devenus fous, complètement parano.
Ça se complique sévère quand votre femme vous dit qu'elle est au courant pour cette fille. Une prostituée en plus. Vous avez beau lui jurer qu'il n'y a qu'elle, votre soleil, ce n'est même pas la peine de discuter. Vous pensez, salaud de Joe, tu me le paieras. Et vous allez direct lui casser la gueule. Avec vos poings, vous tapez jusqu'à ce qu'il pisse le sang. Le problème, c'est qu'après, il porte plainte contre vous, l'enflure. Vous passez devant le juge et avec vos antécédents, les vols et tout le reste, on vous colle 6 mois de tôle avec sursis. On vous interdit d'approcher de la victime à moins de 500 mètres sous peine de sanction. Mais de quelle victime parle-t-on ? Votre femme devient complètement hystérique. Heureusement, elle accepte de vous laisser une seconde chance. Mais vous sentez bien que ce n'est plus pareil entre vous. Elle refuse que vous la touchiez. On ne vous parle plus. Vous les entendez dire dans votre dos que vous êtes un mytho. Vous n'arrivez plus à manger, ni à dormir. Alors vous allez voir le médecin du travail, parce qu'attention, un accident sur la scie, ça ne pardonne pas. Qui vous prescrit 2 semaines de repos et vous file une boîte de cacheton. Il s'inquiète pour vous et vous dit que si vous avez des problèmes personnels, il faudrait consulter un psy. Mais des problèmes, vous n'en avez pas. C'est les autres. À votre deuxième visite, il vous prolonge, alors que vous n'êtes pas d'accord.
Ah, c'est trop dur de rester sans rien faire à la maison. N'envoyez pas la feuille à la sécu et vous retournez au taf. Ça recommence. Il recommence. Un matin, ça sonne à la porte. Votre femme ouvre, c'est la police. Vous avez volé une voiture sur le parking de la résidence. Plusieurs témoins vous ont formellement identifié. Non mais, faudra être con quand même. Vous êtes bougné, on vous embarque. Après, c'est sûr, hein, les flics qui disent que vous les avez insultés, mais faudrait pas tout vous faire porter quand même, non? On vous laisse dehors en attendant le procès, mais votre femme ne rentre pas à la maison ce soir-là. Puis, vous êtes victime d'une seconde interpellation. On vous accuse cette fois d'avoir foncé sur un homme qui traversait la rue au passage pour piétons. Tentative d'homicide. Quelqu'un aurait relevé votre plaque. Qui peut donc vous en vouloir à ce point? Alors on vous passe les menottes, vous apprenez que c'est votre collègue Joe qui a été renversé, il est hospitalisé dans un état grave. On ne sait même pas s'il va s'en sortir. L'avocat commis d'office vous dit que ça va être difficile de vous défendre. Au procès, vous prenez 6 mois, ferme. Heureusement, Joe s'en sort, mais il finit en fauteuil roulant, paraplégique.
En tôle, les matons, les détenus, ça rit, ça se moque de vous. Vous les entendez dans leurs cellules, ça vous regarde de travers, en plus des caméras partout. Vous vous cachez, pas facile avec les ailes qui vous poussent dans le dos. Votre femme, au lieu de vous attendre, c'est quand même elle qui a voulu se marier. Vous jette comme une vieille chaussette et demande le divorce. Le divorce, cette salope. Déjà que votre mère, à la sortie, votre boîte ne veut pas vous reprendre. On vous souhaite bon rétablissement. Pourtant, vous sortez de tôle, pas de l'hosto. Vous n'avez plus rien, ni fric, ni travail, ni femme, ni toit. Vous allez squatter la vieille caravane abandonnée près de la forêt et vous faites la manche. Pas facile au début, mais ici au moins, on vous fout la paix. Vos conneries, comme disent les autres, vous n'en entendez plus parler. Pourtant, un jour, ça recommence.
Ça recommence, oui. C'était hier. Les chiens, les flics, ils étaient 3, armés, casqués, ils sont venus me chercher. Leur chef m'a dit qu'une caméra de vidéosurveillance nous avait filmé sur le parking du supermarché, la fille et moi. Ils m'ont accusé de meurtre. On m'a montré les images, ah, j'ai halluciné. Il me ressemble tellement le gars qui poignarde la fille. On croirait un frangin, un jumeau même. Ma mère m'a pourtant toujours dit que j'étais fils unique. Dans le carnet de famille, je le sais, hein, les services sociaux en ont une copie. Il n'y a que mon prénom. Mais des papiers, hein, ça se trafique. Hein.
La nuit dernière, j'étais en garde à vue. Je ne dormais pas. Trop mal dans le dos. Il a réussi, il est sorti de mon corps, je l'ai vu. Lui, avec ses ailes, celui qui fait le mal. Mais je ne vais pas me laisser faire sans rien dire, le salaud. Car après, c'est moi qui paye pour toutes ces conneries. Et la dernière, c'est cette prostituée qui refusait de monter dans sa bagnole et qui l'a poignardée. J'ai tout raconté aux flics qui m'ont dit « On vous emmène dans un endroit où on pourra faire quelque chose pour vous. Il y a du travail », ils ont ajouté. Je leur ai répondu « Je suis content parce que travailler, moi, je ne demande que ça. Je voudrais qu'on me mette aux espaces verts. Mais je ne veux pas être avec celui qui attend à côté. Je l'aime pas. C'est comme pour l'autre, le tueur. Quand je le croiserai la prochaine fois, il ne s'en sortira pas comme ça. Je vais lui faire passer un sale quart d'heure. Lui péter la gueule. Lui faire la peau. Le flinguer. Le buter. Stravanza. Nous écoutions l'immense Marc Perron, accompagné dans ce morceau par la clarinette du non moins immense Jacques Di Donato. Après cette nouvelle de Valérie Villemain très légère, n'est-ce pas, mon cher ami,
oui,
mon cher Jean-Jacques,
très légère,
très légère, tu nous proposes quelque chose de plus gai?
Eh bien, une nouvelle, un petit peu dans l'air du temps, un petit peu sur ce qui se passe avec les événements actuels dans les villes du Sud, ou même pas seulement dans les villes du Sud, malheureusement. C'est une nouvelle qui est parue dans le numéro 3 de la revue. Alors, elle a été écrite par un dénommé, attends voir que je lise le nom, Olivier Thirion. Ah, c'est drôle, c'est toi.
Oui.
Ah oui.
Ça arrive.
C'est écrit il y a combien d'années, alors?
Il y a longtemps.
Ah, il y a longtemps, oui. Ouais, ouais. Bon, la bête sommeille toujours un petit peu, tu sais.
Oui.
Hein?
Oui.
Comment elle s'appelle?
Ça s'appelle Tonton Alfred.
Ah, Tonton Alfred. Cet homme passé la quarantaine, un peu bedonnant dans son uniforme, vient de tourner au coin de la rue. Et c'est l'heure où le matin dispute à la nuit quelques grains de lumière. Le pavé est brillant de la pluie qui vient de cesser, la rue est déserte. Le militaire se tient en son milieu, les mains dans le dos. Il s'y flotte comme un promeneur. Ses bottes résonnent sur le pavé et rythment l'air de valse qui s'échappe de ses lèvres. Il sourit. Ah ! Soudain, il aperçoit une sorte de tas de vêtements sous un porche. Comme il s'approche, il entend des pleurs et, à l'aide de son bâton, il soulève ce qui ressemble à une couverture. Dessous, recroquevillé par la peur et par le froid, un petit garçon sanglote. Le militaire l'observe une seconde, puis son sourire s'élargit. Mais que fait donc un petit garçon de cet âge, à cette heure, dans la rue? L'enfant, qui ne doit pas avoir plus de 8 ans, pleure de plus belle. Allons, allons, mon bonhomme, tu n'as pas peur de tonton Alfred, quand même. Il se penche vers l'enfant et lui passe la main dans les cheveux. Celui-ci farouche recroqueville dans le coin du porche. Le militaire retire alors son casque et s'assoit à ses côtés. Figure-toi que dans mon pays, j'ai moi aussi un petit garçon qui doit avoir, oh, à peu près ton âge. Quand il pleure comme toi, je lui dis ces mots magiques qui le calment tout de suite. Veux-tu que je te les dise? L'œil de l'enfant s'allume et il renifle. Oh, dites toujours, monsieur. Ainsi donc, tu as une voix. Le militaire, dénommé Alfred, dépose son casque sur la tête de l'enfant. Celui-ci, surpris, commence par remuer la tête pour s'en débarrasser, puis on entend de l'intérieur du casque un tout petit rire. Ah, voilà qui est mieux. Les mots magiques sont « Veux-tu un bonbon ?» Le petit garçon tend sa main et dit « Je veux bien, oncle Alfred ?» De sa poche, le militaire sort un paquet, en tire un caramel prestement attrapé et avalé par l'enfant. « Alors comment t'appelles-tu, petit ?»«
Luc. »«
Eh bien, dis-moi, Luc, pourquoi es-tu dehors à cette heure-ci ? Tu sais qu'on n'a pas le droit d'être dehors, tu le sais, hein ?»«
Oui, mais je faisais rien de mal. »«
Oui, je sais bien que tu faisais rien de mal. Alors dis-moi. »«
C'est ma mère. »«
Eh bien, quoi ta mère ?»
Je chahutais avec mes frères. Tu sais, on n'arrive pas à dormir parce qu'on est 6 dans une toute petite chambre et papa y ronfle.
6 dans une petite pièce? Où ça, mon garçon?
Eh bien, là-haut, dans le grenier. Le grenier que M. René et Mme Yvonne ont aménagé pour nous.
Dans cette maison?
Oui. Alors ta mère, elle t'a mis dehors, dans la rue? Non, non. Elle m'a dit, tu vas réveiller ton père, allez, va dormir sur le palier. Alors j'ai pris ma couverture et je suis sorti. Et j'arrivais pas à trouver une place, c'est trop étroit le palier. Je suis sorti dans la rue et la porte s'est refermée sur moi, je peux plus rentrer.
La phrase se termine par des larmes. Allons mon petit, t'inquiète pas, tonton Alfred va arranger ça. Tiens. Tiens, j'ai une idée. De sa poche, il sort un long sifflet. Luc, on va bien rire. Tu vas prendre mon sifflet et souffler très fort. Le petit s'exécute une fois. Deux fois.
trois fois. C'est un sifflet au son très aigu qui vrille les tympans. Mais on va réveiller tout le monde. Ben justement, c'est ça le jeu. Siffle, siffle encore. Et le petit riant aux éclats, siffle, siffle. Et Alfred s'esclaffant très fort, tape sur ses cuisses. Tu vas voir, petit, c'est un sifflet magique qui fait apparaître les carrosses. Quelques persiennes s'en trouvent, quelques têtes apparaissent furtivement. Le petit, tout en riant, montre du doigt telle ou telle fenêtre. Et tonton Alfred, tu vois là, eh bien ce sont des gens comme nous qui habitent dans la cave. Des gens du village de mon père. Et puis là c'est des gens que je connais pas, mais que papa a aidé à s'installer. Et entre deux paroles, deux rires, il siffle à plein poumon le petit. Il pense plus à pleurer, il pense plus au froid, aux disputes de ses parents. Il pense plus à ses frères, il siffle la chanson de son nouvel ami. À ce moment, tonton Alfred regarde sa montre. Il lève un doigt en l'air. Oh, il me semble bien que le carrosse arrive. Effectivement, on entend, se rapprochant rapidement, un bruit de moteur. Et voici qu'apparaissent 1, 2, 3 camions bâchés qui viennent stopper devant Alfred, qui se lève, remet son casque, s'en va parler avec le chauffeur de chaque camion. De l'arrière, jaillit une cinquantaine de soldats, armés de fusils, casqués, sévères dans leurs grands manteaux. Ils viennent s'aligner sur le trottoir. Alfred s'adresse à eux dans une langue que Luc ne comprend pas. La moitié des soldats se pressent vers la porte cochère où s'était abrité Luc, l'autre moitié vers les maisons que celui-ci a désignées. Avec les crosses de leurs fusils, ils frappent très fort sur les portes qui très vite s'ouvrent. Ils s'engouffrent dans les maisons. On les entend crier, on entend même un fusil qui claque. Il ne reste dans la rue qu'Alfred et Luc. On s'amuse bien, hein, petit ? Luc ne comprend pas ce qui se passe. Tout va trop vite. Mais à ce moment, des soldats ressortent, poussant devant eux sans ménagement un vieil homme et une femme qu'ils font très vite grimper dans un camion. « Mais c'est Monsieur René ? C'est Madame Yvonne ?» Puis sortent les autres soldats, le petit voit apparaître ses frères et sa mère, puis enfin son père. Sa mère, l'apercevant, crie « Sauve-toi, Luc, vite !» Mais le petit ne bouge pas. Sa bouche est ouverte. Il ne comprend pas. Des autres maisons sortent les autres soldats, précédés de tous les amis, de son père. Et ils les font monter également dans le camion. Déjà le premier démarre, reprenant dans l'autre sens la rue. Alfred s'approche alors, passe la main dans les cheveux de Luc. « Voilà, petit, tu vois, moi aussi je peux mettre les gens à la rue. Tu es bien vengé, non ? Ça, c'est une bonne leçon pour tes parents. Allez, maintenant il est temps que tu rejoignes ta famille. T'inquiète pas, va, te disputeront pas. Puis je te promets que là où vous allez, ils pourront plus te mettre dehors. Et partant d'un grand rire, il prend l'enfant dans ses bras, le dépose sur la plateforme du dernier camion, qui à son tour démarre. Alfred le regarde s'éloigner, puis il met les mains dans son dos et repart en sifflotant un air de valse.
Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida a se super modernizar. Ela só samba escondida, que é pra ninguém reparar. Eu cultivo rosas e rimas, achando que é muito bom. Ela me olha de cima e vai desinventar o som. Passo de um concerto de flauta e não me desperta emoção. Ela quer ver o astronauta descer na televisão. Mas o tempo vai, mas o tempo vai.
peito e ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá, de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça é a tal da janela que eu me cansei de cantar. E agora está só na dela, botando só pra quebrar. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem. Essa moça,
il nous fallait bien Chico Buarque pour nous remettre de cette difficile nouvelle que tu nous as lue tout à l'heure. Voici venir le temps de la rubrique Avrac, cher ami.
Oui, c'est l'actualité des refusés. On va envoyer la petite musique de jingle de la valse du scaphandrier. Temps de la rubrique Avrac, l'actualité des refusés.
Pour commencer, mon cher Jean-Jacques, nous avions parlé lors de la précédente émission de l'exposition de notre amie Sylvie Coupé-Touron à la médiathèque de l'Axou. Mais que me dit-on ? On t'aurait aperçu avec une guitare, un accordéon et une jeune fille, oh, au milieu d'étoiles de Sylvie. Tu peux nous en dire plus ?
Avec une jeune fille, peut-être, oui, mais effectivement avec mes instruments, c'est vrai, j'avoue Olivier, j'ai effectivement participé musicalement à la clôture de son exposition de peinture. Lors de celle-ci, eh bien, il y a eu quelques jolis poèmes qui furent lus par la brillante comédienne Emmeline Touron.
Qui n'a rien à voir avec Sylvie Touron.
Ah non, non, et il y a un H en plus chez notre amie Sylvie, et que j'ai donc accompagné musicalement avec mes deux instruments préférés. Bien que quasiment improvisé, puisqu'en une seule séance de travail, le résultat, ma foi, a semblé beaucoup plaire aux spectateurs venus à la clôture. Il faut ajouter que les poèmes qu'on a fait entendre sont écrits par toi, Olivier, encore une fois, et que le recueil de ces poèmes, paru aux éditions Kairos, est illustré justement par Sylvie Coupé-Touron. Tu vois, la boucle est bouclée.
Tu baisses.
Bon. Il faudra que tu baisses la musique.
Un grand salut fraternel aux comédiens et aux comédiennes, musiciens et musiciennes, aux lectrices de l'association Les Trois Pattes et un canard qui ont enchanté nos oreilles et notre esprit pendant toute cette semaine.
Oui, je peux te dire que tous les amis que j'avais entraînés à l'une de leurs soirées ont été ravis et enchantés. Ils piaffent déjà d'impatience en attendant le festival numéro 5 de l'année prochaine. Moi, personnellement, j'ai assisté 3 fois à des interventions durant ces 10 jours. D'abord au musée Aquarium, lors de l'inauguration avec Amalys de Kerangal et Bernard Friot. C'est 2 auteurs assez connus, hein. Ils sont connus nationalement et très vite devant un public nombreux, ravi et conquis. La deuxième fois, c'était au banquet littéraire. C'est un banquet plein comme un œuf où on y mange, dans ce banquet. En plus, ce qu'on a mangé était top. Hein.
Et c'était lectures, à la brasserie du marché.
À la brasserie du marché, oui, c'est ça.
C'est pas pour faire de la pub à Rachine. Mais...
Enfin, à la clôture du festival, je suis allé aussi chez nos amis du théâtre de la Grand-Rue. Alors là, c'était quelques nouvelles culinaires sur les patates. Enfin, tu sais que j'aime les patates, moi. C'était aussi sur les salsifis.
Avec ou sans patates?
Sans patates. Et autre forte nouvelle amusante. Et à chaque fois, lors de ces lectures, il y avait des musiciens, hein, musiciens professionnels, qui accompagnaient ceux-ci. D'après nos amis, ils ont travaillé quand même 3 semaines sur comment fabriquer ce spectacle, hein, ces lectures et tout ça. Donc, quand ils jouent forcément en direct, comme ça, il y a une ambiance qui est tout à coup créée. Elle nous transporte parfois loin, 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 loin de Nancy. Toutes ces musiques ou ces sons donnent alors un autre relief aux simples textes déjà de base, hein, qui sont déjà assez captivants. Et là, on décolle.
Quelles sont les nouvelles sur RCN?
Pour terminer, chaque fois les salles étaient combles.
Oui, combles.
Et que demander de plus?
Le prochain spectacle, l'année prochaine, quoi.
Moi, je propose qu'on termine là-dessus, mon cher ami.
Bah oui, oui.
C'est
la fin de l'émission.
En espérant que la prochaine fois, dans un mois...
Evelyne pourra peut-être être présente la prochaine fois, quand elle n'aura plus ses problèmes familiaux. Alors, on vous dit en attendant, à bientôt, chers auditeurs et auditrices.
Merci, à bientôt.
Laisse-moi 5 minutes avant que tu t'en ailles. Laisse-moi 5 minutes avant que tu te cavales. Laisse-moi 5 minutes pour te dire que j'ai mal. Je n'ai plus de but, que j'ai le cœur en cale. Souvent dans le désert, oh, sans eau ici tout meurt. Reviens, nous irons vers, oui, les sources du bonheur. Marchons dans les dunes, montez sur mon cheval. Je t'inventerai la lune, mon frappeur au chacal. Mais laisse-moi 5 minutes.